Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone. Je vous remercie de prendre part aux grands titres du jour en ce mardi 21 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question du don de sang chez les gays, du rêve d'un rythme de vie plus aisé, de l'invalidité de la loi sur l'euthanasie et des voitures électriques à Montréal. Débutons par cet article qui a pour titre « Don de sang ». La période d'exclusion pour les gays réduite à un an. Cet article a été publié sur la plateforme du journal La Presse. Voici ce qu'on nous dit. La Société canadienne du sang et Emma Québec pourront accepter des dons de sang provenant d'hommes dont la dernière relation sexuelle avec un autre homme remonte à plus d'un an. Jusqu'à maintenant, la période d'exclusion pour les hommes ayant eu au moins une relation homosexuelle était de 5 ans. Le changement entrera en vigueur à compter du 15 août, précise la Société canadienne du sang. Eh bien, ce qu'on nous dit essentiellement dans cet article, si vous lisez la suite, c'est qu'il y a des recherches, il y a des tests qui ont été faits, et on nous dit qu'en réduisant ce temps, eh bien, on est quand même en sécurité. Eh bien, c'est ce qui est important, c'est ce qui compte, mesdames et messieurs, c'est que les transfusions de sang puissent se faire en toute sécurité et que personne ne soit contaminé. Évidemment, la communauté LGBTQ se réjouit de cette décision-là, mais certains lobbies auraient souhaité qu'on enlève justement ce délai d'un an pour que la communauté LGBTQ puisse se sentir sur le même pied d'égalité que les hétérosexuels. On poursuit avec la plateforme de La Presse. Il y a un autre article qui attire mon attention. Eh bien, celui-ci s'intitule comme suit. Plusieurs rêvent de ralentir leur rythme de vie. Voici ce qui est écrit. Une étude internationale consacrée au mode de vie futur et aux aspirations liées à la mobilité montre que 78 % des personnes interrogées dans 6 pays au mode de vie occidental aspirent à ralentir leur rythme de vie et 51% à moins travailler. Écoutez bien ça, mesdames et messieurs, on nous dit également que 74% d'entre elles estiment ainsi que le rythme de vie dans la société actuelle est trop rapide. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas surprenant. On est dans un monde où est-ce que tout est rapide et on est sollicité par plein de besoins, on est sollicité par plein d'éléments qui nous font bouger et qui nous font bouger à un rythme assez accéléré. Mais à un moment donné, ça nous rattrape. Et c'est pour ça qu'on nous dit que 90% souhaitent pouvoir accorder plus de temps à leurs proches, 89% à elles-mêmes. Ce que ça nous enseigne, ces statistiques, c'est qu'au bout de la ligne, même si on est plus occupé, on passe moins de temps à vivre l'essentiel. L'essentiel, mesdames et messieurs, pour cette vie terrestre, pour cette vie en relation avec les gens autour de nous, eh bien, c'est d'accorder plus de temps à nos proches et également à nous-mêmes. Et c'est pourquoi de s'arrêter, se recueillir, de réfléchir, faire des mises au point, c'est nécessaire, c'est essentiel, et c'est comme ça qu'on se ressource. C'est pour ça que les chrétiens vont s'arrêter pour prier, pour méditer, pour lire, se ressourcer. Mais même les chrétiens ne sont pas à l'abri de tomber dans une vie où est-ce que le rythme est effréné. Et au bout de la ligne, ce qu'on se rend compte, c'est exactement ce que dit l'Ecclésiaste. Eh bien, à un moment donné, trop d'activité, ça devient poursuite du vent. Côté travail, 51% aspirent à réduire leur temps de travail. C'est quand même intéressant parce qu'on nous dit ici qu'il y a quand même 90% des gens qui souhaitent accorder plus de temps à leurs proches et 89% à elles-mêmes, mais 51% aspirent à réduire leur temps de travail. Donc, on peut en déduire que ce n'est pas seulement le travail qui fait en sorte qu'on est pris par un activisme. Sur une autre plateforme, celle du Huffington Post, eh bien, le Huffington Post a publié le contenu d'un article qui a été rédigé par la presse canadienne et qui s'intitule « Aide à mourir, Barrette voudrait faire tester la constitutionnalité de la loi ». Ici, on parle de la loi C-14, la loi qui légalise l'euthanasie. Eh bien, effectivement, M. Barrette se pose des questions quant à la légalité ou la constitutionnalité de cette loi. Et avec raison, parce que ce qu'on nous dit dans cet article, c'est ceci. La constitutionnalité du projet de loi C-14, qui a été élaboré en réponse à un jugement rendu en février 2015 par la Cour suprême du Canada, a été remise en question par certains experts en la matière. Et je poursuis. C'est pourquoi, sur une base personnelle, M. Barrette ressentirait totalement le besoin de faire un renvoi devant le plus haut tribunal québécois. Mais cette décision-là est une décision gouvernementale, alors la réflexion doit se faire, a-t-il insisté. Ce dont le gouvernement du Québec est pleinement conscient, c'est que sa loi en matière des soins de fin de vie devra clairement et très rapidement être adaptée en raison de l'entrée en vigueur d'une loi fédérale qui va plus loin, a soutenu Gaétan Barrette. Certaines dispositions de cette loi, le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible, l'implication des infirmières praticiennes spécialisées, le délai de 10 jours entre la demande et l'administration de l'aide médicale à mourir, dérange le ministre. Le gouvernement québécois devra agir rapidement car pendant cette période de flottement, sa loi s'expose à des contestations judiciaires, a dit l'avocat Jean-Pierre Ménard, spécialisé en droit de la santé. La province est encore plus vulnérable que le fédéral parce que son critère de fin de vie est encore plus restrictif, a expliqué en entrevue celui qui a participé à l'élaboration du projet de loi du Québec. Ça ici, mesdames et messieurs, il y a un petit décalage entre le projet de loi fédéral, celui qui a été accepté à Ottawa, et le projet de loi provincial, celui qui a été accepté à Québec. Ce qui arrive, c'est qu'on parle, grosso modo, au Québec, c'est une fin de vie imminente. C'est vraiment dans les derniers jours, dans les derniers moments de la vie qu'un patient peut demander l'aide médicale à mourir. Mais la loi fédérale, elle est plus large. Elle dit que c'est une mort naturelle raisonnablement prévisible. Encore là, il y a un flou, mais la définition, elle est plus large. Donc, il va falloir qu'il y ait une harmonisation des lois. Et c'est pourquoi le Collège des médecins recommande à ses membres de se coller à la loi québécoise. Du côté de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, eh bien, ce qu'on conseille à leurs membres, c'est de fonctionner avec la réglementation québécoise, à savoir que c'est toujours le médecin qui administre l'aide médicale à mourir. Et donc, des deux côtés, qu'on parle des médecins ou des infirmiers ou des infirmières, eh bien, on veut se coller sur la loi québécoise. Mais évidemment, pour s'assurer que tout fonctionne bien, M. Barrette veut s'assurer que cette loi, elle est constitutionnelle d'un bout à l'autre. Parce que si la loi québécoise doit s'adapter éventuellement à la loi fédérale, eh bien, ça doit être fait selon les règles de l'art. C'est à suivre, mesdames et messieurs. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut plus reculer à moins de changer la Constitution ou d'avoir recours à la clause dérogatoire, ce que le gouvernement libéral ne fera certainement pas. Mais, pour finir avec une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, ce qu'on apprend sur la plateforme du journal Le Devoir, c'est que le premier ministre, M. Couillard, veut créer une grappe de véhicules électriques à Montréal. C'est ce qu'on apprend dans le journal Le Devoir. Voici ce qu'on nous dit. Le premier ministre, Philippe Couillard, entend faire de Montréal une plaque tournante dans la conception et la fabrication de véhicules électriques. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a pour sa part présenté la stratégie d'électrification de la ville qui s'appuie notamment sur l'électrification de la flotte de véhicules municipaux, des autobus, de l'autopartage et de bornes de recharge. M. Coderre a également fait part de l'intention de son administration de créer un institut pour l'électrification des transports en collaboration avec le milieu universitaire, dont la mission sera de développer expérimenter et promouvoir les innovations en matière de transport électrique et intelligent. Et ce qu'on apprend à la fin de cet article, c'est que le maire veut en bout de ligne accélérer la commercialisation des transports électriques. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, parce que ça réduit notre dépendance au pétrole et il est temps qu'on commercialise et qu'on multiplie les moyens de transport électriques, donc des moyens de transport qui sont plus verts, plus écologiques. C'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Eh bien, à ce stade-ci, l'émission tire à sa fin. Et donc, avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles qui ont été mentionnés dans cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.